9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et Philippe, on accueille Pascal de la Tour du Pin.
Bonjour Pascal de la Tour du Pin.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Après être passé par BFM TV, c'est là où on vous avait repéré. Vous présentez depuis 3 saisons la matinale de LCI, le 6h, 9h. Les audiences montent, on va les détailler dans un instant. Je vais commencer par la question la plus difficile qui soit. Il y a 4 matinales sur les chaînes d'info, 5 si on ajoute Public Sénat. Qu'est-ce qui fait la particularité de la vôtre ?
Chez moi, c'est info, signature et humeur. Donc ça, ce sont les trois ingrédients qui vont faire
Pardon de vous interrompre, les autres aussi donnent de l'info, ont des signatures et ils ont de l'humeur.
Ah oui, non, mais alors moi, nous avons des nouvelles signatures cette année. Elisabeth Martichoux, 8h30, l'interview politique. Jean-Michel Apathy, qui a rejoint l'équipe de la matinale. Nous avons François-Xavier Pietri, qui était sur LCI et qui anciennement était éditorialiste économique sur TF1.
Alors, je vous interromps parce que moi, je ne le connaissais pas. Jean-Michel Apathy, évidemment, on le connaissait très très bien. Je l'ai connu à France Info, il était Europe 1 récemment. Elisabeth Martichoux était sur RTL. Elle fait une interview politique long format, c'est ça ?
Exactement, 20 minutes.
20 minutes.
De 8h30, effectivement, jusqu'à 8h50 à peu près, bien sûr.
Ils ont 20 minutes, ça donne quoi les audiences ?
Ça marche bien. Les audiences grimpent.
Parce que normalement, les producteurs disent voilà, c'est trop long, il faut couper,
Et sur LCI, on a le temps, on a des temps longs, effectivement, pour échanger. C'est ce que fait Elisabeth Martichoux tous les matins. Et ça progresse bien.
Et
oui.
Le pari prend. Alors, j'en parlais, François-Xavier Pietri, il n'a pas la notoriété d'Apathy ni de Martichoux. Pardon de dire ça, qui est-il ?
François-Xavier Pietri, alors il a évidemment toute l'expertise économique qu'on lui connaît, mais il était éditorialiste sur TF1. Vous l'avez vu sur les plateaux du 20h, sur les plateaux du 13h de TF1. Et il est venu ensuite sur LCI, où l'année dernière, il officiait sur la mi-journée le 12-14. Donc c'est une signature, il a une reconnaissance économique. Il a sa patte en plus, il est sympathique, il a une façon de vulgariser l'économie qui est assez agréable le matin.
Et puis une nouvelle venue qu'on connaît bien ici, dont on se partage un peu la garde, Hélène Manarino, qu'est-ce qu'elle fait chez vous ? Parce que moi,
Hélène,
je ne peux pas regarder.
Hélène Manarino, qui est effectivement ici, qui nous regarde, effectivement, qui est enrichie. Hélène Manarino, elle nous emmène découvrir des sorties, enfin du théâtre, du cinéma. C'est tout l'univers de la culture qu'elle fait avec sa sauce et qu'elle fait très très bien avec son côté pétillon.
Alors dans une interview aussi de Pure Média, interview par Pierre Desereaux, je vais le citer puisque c'est notre collègue, vous faites quelque chose que je n'avais jamais vu, vous mettez en avant votre monsieur météo.
Ah ben ça c'est indispensable en matinale.
Guillaume Woznicka, pourquoi vous êtes la première personne qui dit et puis on a la météo de quelqu'un, vous le citez et vous dites même, ce garçon est incroyable, il ne se trompe jamais. Prends ça dans ta face, Laurent Cabrol. Non mais les autres se trompent. Qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Non mais Guillaume Woznicka, c'est un passionné de météo. C'est-à-dire que quand il part en vacances, il est capable de vous envoyer des mails en vous disant à 2h du matin, attention, il y a tel ou tel phénomène météo. Il est incroyable. Et c'est vrai que c'est une
geek
passion.
De la météo.
C'est un geek de la météo. D'ailleurs, il communique pas mal sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu un professeur tournesol de la météo. Il est génial. Et c'est vrai que quand il y a des phénomènes météo importants, il est là. On peut compter sur lui. Son expertise est sûre. Et la météo en matinale, c'est très important. C'est-à-dire que le matin, quand vous faites votre petit déjeuner, vous vous informez et vous dites, mince, comment je m'habille ?
Oui, qu'est-ce que je mets comme chaussures ?
Qu'est-ce que je mets comme
blouson pour le scooter
c'est
ou pas ?
C'est très important.
Il y a les classiques. Gérard Kirzek, je prononce toujours mal son nom.
Gérald Kirzek, qui est médecin, effectivement. L'aspect santé aussi, un aspect important dans la matinale.
Et Christophe Beaugrand avec son humeur.
Ah, Christophe Beaugrand. Évidemment, Christophe Beaugrand qui arrive tous les jours à 8h10, l'humeur de Beaugrand, qui a toujours une façon de... On regarde sur l'actualité avec son regard incisif, drôle, et Benjamin Cruard. Non, je peux pas. Benjamin Cruard qui nous fait cette année des enquêtes. Il va sur le terrain tous les jours enquêter sur un sujet. Donc il y va, il vient nous raconter en plateau. Ça aussi, c'est une nouveauté cette année.
Et ce matin, il nous a envoyé du rêve parce qu'il était dans une décharge.
Ah oui, les décharges à ciel ouvert. C'est vrai, effectivement. 7000 tonnes de gravats en région parisienne. Incroyable.
Les audiences, vous les connaissez par cœur.
Plus 23% là en septembre. C'est, je parle sous votre contrôle. Oui, ça grimpe. Ça grimpe, effectivement. Les cibles aussi, c'est important. Donc voilà, mais je les audiences, j'y prête une attention un peu de distance. Ça va dans le bon sens. Mais ça s'inscrit dans la durée. Une matinale, c'est des habitudes, ça doit s'inscrire dans la durée. Donc voilà, ça va dans le bon sens et on va faire en sorte que ça aille mieux et que ça continue à progresser, bien sûr.
Vous vous souvenez de votre première audience quand vous avez déboulé sur LCI ? Dites le chiffre.
Je vais vous dire, mon premier jour à LCI, je me souviendrai toujours, et Thierry Tulier m'excusera si je racontais cette histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque, il était patron d'LCI et il sait que ça va être un choc pour moi. On est le 27 août, pas de communication puisque la conf de rentrée arrive ultérieurement. Et j'arrive, je prends l'antenne et il me dit « j'ai eu les chiffres le lendemain ». Il avait un sourire, Thierry Tulier. Je lui dis « bon, c'est que ça doit être bien ».
Attends, il faut dire que vous étiez sur BFM qui faisait 500 000 la matinale.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. J'arrivais de BFM, voilà. Alors, je lui dis « bon, chouette, on va faire 200, 300 000 ». Il me regarde, il me dit « 37 000 ».
C'est même pas le Parc des Princes.
37 000, je vous jure. 37 000. Donc je me dis, c'est pas possible. Il a le sourire. Et je me dis, c'est une blague. Non, pas du tout. C'était pas du tout une blague. Donc on est parti de là, effectivement. C'était un 27 août, il y a plus de deux ans maintenant.
Moi, j'ai toujours ce chiffre en tête. Le Parc des Princes, c'est 44 000.
C'est pas vrai. J'avais fait moins d'un Parc des Princes.
Oh, exactement. Bon. Je reviens. Devant vous, il y a BFM TV,
oui.
L'Ogre Télématin, ils sont prenables ou c'est
oula. Alors, c'est des matinales qui sont très installées. J'aurais jamais la prétention d'aller dire, effectivement, oui, Télématin est prenable ou BFM TV est prenable. L'objectif, il n'est pas là. L'objectif est d'installer une matinale sur LCI, de la faire progresser. Et effectivement, mais bien sûr que l'objectif est de faire grimper les audiences. Mais...
On va parler du fond. L'année a été très, très particulière, même la saison avec la crise des Gilets jaunes. Et vous dites, Pascal de la Tour du Pin, qu'il y a un avant et un après. Expliquez.
C'est vrai. Tout le monde dans la profession, effectivement, d'abord, on ne s'attendait pas à un phénomène de cette ampleur. Mmh. On l'a suivi, commenté, effectivement, de week-end en week-end, avec les répercussions que ça avait en semaine.
Mais en quoi ça a impacté votre manière de travailler, votre manière de faire de l'info? C'est quoi cet avant et cet après?
C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on donne la parole, effectivement, à des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de recevoir en plateau. Il fallait être extrêmement vigilant. Pas facile, effectivement, de savoir qui porte la parole, parce qu'il y avait certains leaders qui sont montés en haut de l'affiche et puis après qui ont disparu. Donc on a été extrêmement prudents. Donc ça nécessitait effectivement beaucoup de concentration pour éviter effectivement d'avoir des dérapages. Donc ça nécessitait du travail, beaucoup d'échanges et de la prudence le plus possible.
Tout le monde n'a pas été prudent au début. On a vu plein de leaders autoproclamés qu'on voyait raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur les plateaux. Comment vous-même vous avez vécu ces événements, ces violences, vous-même et votre équipe, et la défiance d'une partie de l'opinion envers les médias, notamment les chaînes d'infos continuent, même si la première visée était d'abord BFM, puisque le leader prend tout en général. Mais comment vous avez vécu ça?
C'est jamais agréable, effectivement. C'est jamais agréable d'être dans cette situation. Nous, en matinale, on n'était pas au cœur de le week-end. On n'était pas au cœur de l'actualité, donc on avait le temps du décryptage. Donc on analysait. C'est-à-dire que voilà, on se confiait, on se reposait sur des éditorialistes, des débatteurs, des personnes, effectivement, qui venaient en plateau pour expliquer ce phénomène. On a essayé de comprendre nous-mêmes un phénomène qu'on découvrait comme tous les Français.
Vous avez été menacé. Est-ce que vous avez dû faire des tournages comme France 2 ou BFM TV, avec des micros anonymisés.
Des micros anonymisés, effectivement, et des gardes du corps. Il y avait des journalistes d'LCI, souvenez-vous de ces images qui avaient été ramenées sur les réseaux sociaux, qui avaient été molestés alors qu'ils faisaient leur travail, comme d'autres de nos confrères. Donc oui, effectivement, la sécurité était assurée par la direction. Donc oui, des bonnettes neutres, des gardes du corps, pour que les journalistes puissent faire leur duplex et leur travail dans les meilleures conditions. Enfin, en tout cas, des questions de sécurité essentielles quand on fait ce métier.
Vous imaginez ça quand vous avez fait une école de journalisme, en vous disant un jour j'aurai des gardes du corps, il ne faudra pas que je dise ce que je fais, comme si on était dans un pays...
Je ne sais pas si on l'imagine, non, effectivement, on ne l'imagine pas. Non, on imagine effectivement toujours qu'on va essayer de faire son travail dans les meilleures conditions possibles.
Le rapport de Pascal de la Tour du Pin au Breaking News, plein de choses encore à dire, son avenir, sa carrière, c'est tout de suite après ça.
Oui, ça se passe sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Elle nous parle de sa rentrée matinale sur LCI. C'est Pascal de la Tour du Pin qui est notre invité, Philippe.
Question directe. Quelle est votre attitude? Je crois que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, votre attitude par rapport au Breaking News. J'explique ce qu'est le Breaking News aux gens qui ne connaissent pas cet anglicisme. C'est quand on casse l'antenne parce qu'il y a un événement particulier.
Voilà, alors ça se fait rarement,
ouais.
Mais c'est arrivé. Récemment, depuis que je suis à LCI, par exemple, on a cassé l'antenne pour la mort de Johnny Hallyday qui avait été annoncée la nuit.
Ouais.
Spontanément, je reviens sur cet événement.
Parce que je veux dire le sens de ma question. Vous avez dit, s'il y a des chutes de neige qui paralysent le pays, je peux partir en édition spéciale là-dessus, tout comme la canicule qui a été un des temps forts de l'année. Je me suis dit, ok, ça c'est pour décembre et pour juin, mais entre les deux, elle fait quoi, Pascal de la Tour du Pin?
Non, il y a de l'info, mais le breaking news, alors la neige, effectivement, alors là c'était... pas vraiment du breaking news, c'est-à-dire qu'on a monté une édition spéciale. L'édition spéciale, c'est-à-dire qu'on la prépare, on sait... grâce à Guillaume, que le lendemain Paris va être paralysé, mais pas que Paris, il y avait la France entière.
Guillaume,
avait...
votre présentateur météo.
Voilà, je vous dis
vous
ça.
Vous l'aimez tellement que vous l'appelez par son prénom.
Parce que vous l'avez cité tout à l'heure. Donc voilà, on le sait, on monte une édition spéciale. Et là, effectivement, j'ai l'impression de faire de l'information service. Le matin, les gens ont besoin de savoir, ils ont besoin de voir les images, ils ont besoin de savoir s'ils vont pouvoir amener des enfants à l'école ou même aller au travail simplement. Donc ça, effectivement, ça s'appelle une édition spéciale. C'est prévu, c'est annoncé. Puis le breaking news, c'est vraiment quand il se passe quelque chose dans la nuit. Donc spontanément, je vous disais qu'était l'événement le plus plus marquants depuis que je suis à LCI, c'est le décès de Johnny Hallyday, où là, vraiment, on casse l'antenne. C'est du breaking news. Va y avoir des réactions qui vont arriver. Et on prend l'antenne, on jette tout ce qu'on a préparé, poubelle. Et voilà, et on alimente l'antenne et on réveille les téléspectateurs avec cette information.
Voilà. Ah oui, alors que quand c'est par exemple le décès de Jacques Chirac, on l'a appris dans la matinée, donc voilà. Vous-même aviez déjà rendu l'antenne et le lendemain,
exactement,
vous n'étiez pas obligé de faire du breaking news.
Voilà, c'était plutôt une édition spéciale qu'on a consacrée effectivement à Jacques Chirac en hommage au président.
Et sinon, vous êtes partante pour les délocalisations, vous aimez bien être ailleurs
bien
que dans le studio.
Bien sûr que j'aime beaucoup les délocalisations. Alors on l'a fait pour Notre-Dame, alors c'était effectivement, voilà, je suis partie, 5h du matin, j'ai pris l'antenne dehors, donc pas de pub, pas de coupure, avec une petite pluie, une petite bruine qui tombait à 5h debout, effectivement, avec tous les invités qui défilaient et qui arrivaient pour commenter cette actualité. On était tous stupéfaits de voir Notre-Dame dans cet état et sa nécessité, effectivement, de marquer le coup. On l'a fait, alors je l'ai dit, effectivement, avec un sourire pour la canicule. Là, on a illustré, effectivement, ce qu'on était tous en train de vivre. La France suffoquait. Donc voilà, on avait tous passé des nuits épouvantables. On n'a pas dormi parce qu'il faisait trop chaud. Donc voilà, le lendemain, on faisait partager ça aux téléspectateurs, avec l'équipe qui était délocalisée partout. Donc tous les chroniqueurs avaient joué le jeu et étaient partis un peu partout en France pour couvrir cette actualité.
En parlant de l'actualité un peu différente, un mot sur l'affaire Zemmour-LCI. De votre point de vue, est-ce qu'il fallait diffuser son discours à la convention de la droite de Marion Maréchal ?
Alors je vais vous répondre non, puisque la direction d'LCI a reconnu que c'était une erreur. C'était une erreur sur le format, parce qu'il n'y avait pas de contradiction. Alors LCI est une chaîne de débat. Donc toutes les opinions effectivement ont vocation à s'entendre sur LCI, mais il faut qu'il y ait une contradiction. Là effectivement c'était un format qui n'était pas adapté, la direction a reconnu que c'était une erreur. À l'heure où je vous parle, il est 9h50, Fabien Damiens est avec la rédaction et échange justement avant de voir la SDJ et échange justement sur cet événement malheureux, puisqu'on a reconnu que c'était une erreur.
La LCI a reconnu une erreur d'appréciation, la diffusion du discours n'était pas le format approprié pour la chaîne, voilà ce qu'a dit LCI officiellement. Un détail technique, Pascal de la Tour du Pin, jusqu'à présent vous n'aviez pas de rédacteur en chef,
oui.
C'est vous qui occupiez ce rôle, maintenant vous en avez un, ça
m'a changé
quoi
la vie.
Oui, non, j'imagine c'est mieux pour le travail, est-ce que vous pouvez dormir une ou deux heures de plus?
Alors non,
bon.
Non, ça c'est non, mais en revanche effectivement oui, bien sûr ça m'a changé la vie et puis voilà, ça participe à l'amélioration constante de l'émission, bien entendu. Bastien Morassi qui a rejoint l'équipe.
Vous levez à quelle heure?
Je me lève à 1h45, pour être tout à fait précis. Quand vous êtes en matinale, vous savez que les minutes comptent la nuit.
Ouais.
C'est parce que c'est une minute en plus ou moins de sommeil.
Et alors, on se demande comment vous faites pour tenir. Et si j'en crois le Figaro, vous tenez grâce à ceci.
Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Figaro.
C'est vrai,
c'est vrai.
Vous êtes la seule personne que je connais qui boit du
ricoré.
Je dis la marque une fois et j'arrête parce que le CSA nous écoute.
Alors oui, c'est vrai que j'ai bu ça pendant des années jusqu'au jour où...
Vous avez été malade.
Pas du tout. On m'a dit mais c'est bourré de sucre, c'est mauvais pour la santé. J'ai fait comme tout le monde, vous savez, avec la petite application qu'on a tous sur nos portables.
Ah
beaucoup,
oui.
Voilà, exactement, pour ne pas la citer.
L'application
ou autre.
Ouais.
Oui, voilà, les applications. Voilà, j'ai vu effectivement que c'était mauvais pour la santé. Donc vous ne riez pas. Je suis à la tisane.
D'accord.
Voilà. Et c'est meilleur pour... parce que j'ai beaucoup d'énergie.
Ouais.
Donc c'est très bien la tisane. Pour moi, c'est très bien le matin.
C'est bien ?
Oui.
Et vous allez faire pipi toutes les 10 minutes ?
Alors non, juste... Ah, ça c'est terrible, ça. Effectivement, il faut rester concentré pendant 3 heures.
Je vais vous le dire. Normalement, je ne le fais jamais. Mais là, c'est Hélène Manarino qui a balancé.
Voilà, on réglera, réglera tout ça demain, Hélène.
Je vais redevenir sérieux. Vous voyez faire la matinale combien de temps ?
Écoutez, ça fait longtemps que je fais la matinale, c'est vraiment un format que j'apprécie. Je ne me pose pas la question, pour l'instant je suis en septembre, donc voilà, je suis portée effectivement par le mouvement de la saison et l'envie de réussir cette saison.
Non, mais il y a des gens qui disent je ne sais pas, il y a des gens qui disent 10 ans, il y a des gens qui disent 3 ans.
Je peux pas, enfin je me fixe pas vraiment de limite, mais ça fait longtemps, je connais bien ce format, j'y suis bien. Donc je me poserai la question plus tard, pour l'instant vraiment on est au mois de septembre. Donc
et
là, dynamisme, rentrez.
Je vous pose la question en citant le Figaro, papier du 12 novembre 2018, je cite. Parle de vous. S'imposer dans le groupe TF1, tel est son autre défi, déjà en partie accompli. Dès que l'actualité le permet, la direction lui confie les rênes des éditions spéciales les plus regardées, si bien que certains l'imaginent un jour succéder à Jean-Pierre Pernaut à la tête du 13h. Fin de citation, vous aussi.
Alors, Une fois, effectivement, j'ai fait une édition spéciale avec Julien Arnaud, qui officie aussi sur LCI le soir, de 22h à minuit. C'était lors du mariage de Meghan Markle. Super événement, ça, c'était vraiment voilà, un événement en images qu'on avait commenté. Non, je vous vois faire une petite moue, non ?
Non, c'est pas du hard news.
Non, c'est pas du hard news. Voilà. C'est pas du hard news. Mais on faisait partager avec les téléspectateurs, d'accord, effectivement, ce mariage princier qui remporte un succès.
Ma question, c'était pas ça. Ma question, oui, c'était pas si vous faites des émissions spéciales, puisque je sais que c'est vrai. Oui. Ma question, c'était, est-ce que vous imaginez un jour prendre le 13h de TF1 ?
Bah écoutez, la question se pose pas.
Bah si, c'est écrit. Oui, et je vous la pose. Alors, la question se pose, puisque je vous la pose.
Non, la question se pose pas. D'abord, Jean-Pierre Pernaut est à fond.
Non, j'ai dit un jour. J'ai pas dit, ça va dire à la rentrée. Hein.
Vous savez, vous êtes bien placé pour savoir comme moi que dans ce métier, rien n'est acté. On peut avoir des surprises incroyables. Moi, je suis partie de mon ancienne maison pour venir sur LCI en 15 jours. Si vous m'aviez dit 2 mois avant, est-ce que vous voyez reprendre la matinale d'LCI, je vous aurais dit... Non,
vous aurez même juré que non. Vous l'avez dit, votre réveil sonne à 1h45. Oui. Vous avez des enfants.
Oui.
C'est vrai que vous n'avez encore jamais pu les accompagner pour une rentrée scolaire.
Non, surtout ma fille. C'est une frustration, ça c'est vrai, effectivement. J'ai pas fait les rentrées scolaires, parce que quand on est en matinale, on vient de rentrer de vacances et on couvre les rentrées scolaires accessoirement.
Mais
je suis une mère horrible. Non, mais j'en
profite
le soir.
Mais oui, il y a des gens qui disent, mais c'est une mère indigne. Mais vous n'avez même pas posé au moins une fois un RTT.
Non, c'est compliqué. Mais en revanche, j'ai fait des sorties scolaires, Philippe Vandel.
Ah oui,
j'ai accompagné la classe de mes enfants à la piscine, par exemple. Donc j'ai réussi effectivement à adapter mon emploi du temps. Mais la rentrée scolaire en tant que telle, oui, effectivement, c'est une petite frustration, c'est certain, mais je compense en faisant d'autres choses, en partageant d'autres moments avec mes enfants. Mais ça, c'est important, hein, l'équilibre familial.
Alors, vous parliez de Meghan Markle, moi aussi, je vais faire du carnet rose. J'avais jamais vu quelqu'un avec autant de particules dans son nom, parce que pour moi, vous étiez Pascal de la Tour du Pain, de la matinale de LCI.
Oui, c'était déjà...
Et en fait, c'est encore plus long que ça. Est-ce que votre nom de famille prend réellement 3 lignes sur votre passeport ?
Oui.
Dites-le en entier.
Oula. Alors, c'est la Tour du Pain, Chambly de la Charse au Connor. C'est vrai. Voilà.
C'est le nom de votre époux.
C'est le nom de mon époux, exactement. Et bah oui, mais j'ai Gaillard devant, qui est mon nom de jeune fille.
Et
oui.
Vous mettez tout ça sur le passeport.
Je mets du temps à la douane. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays étranger, ouais, c'est-à-dire que la personne vous regarde les 3 lignes, vous regarde un petit moment. C'est vrai que ça me fait perdre du temps quand on va à l'étranger.
Votre mari, si je suis bien informé, est comte. Est-ce, oui, qu'il y a des gens qui vous appellent Madame la Comtesse ?
Non, mais j'attends que vous le fassiez, non ?
Non, bah non, c'est un usage que moi je connais pas. Non, mais est-ce que vous êtes encore,
non,
dans des réunions, dans des rallyes,
dans des
choses aristocratiques de cette sorte ?
Je suis pas dans des réunions. Effectivement, on m'appelle comme ça. Non.
Ça vous est encore jamais arrivé qu'on vous appelle Madame la Comtesse ?
Non, je crois pas. Écoutez, je me souviens peut-être que ça a dû m'arriver, mais non. Mais on ne l'utilise plus dans le langage courant.
D'accord. Merci beaucoup, Pascal de la Tour du Pain, de la matinale de LCI. Je vais donner les horaires. C'est 6h, 9h tous les matins, et c'est sur le canal
26.
Voilà, il faut toujours dire les canaux. Le 26 et le, oui, 27, c'est France Info. Voilà. On va être œcuménique.
Mais surtout le 26. Hein.
Merci beaucoup d'avoir été,
merci,
avec nous,
Philippe,
en direct. Et maintenant, bonne nuit.
Ah oui, voilà, c'est ça, je vais me coucher. Merci infiniment.
Culture Média, ça continue, Philippe.
Évidemment que ça continue. Après le rappel des titres de 10h, on va parler culture. On va recevoir Christelle Cholet pour son spectacle numéro 5 de Cholet, actuellement au théâtre de la Tour Eiffel. Elle a inventé le comic hall. Vous allez me dire, c'est quoi ? Eh bien, c'est comme du music hall, mais en plus comique. Et puis, Hélène Manarino, si elle est vivante, après que vous l'ayez croisée dans les couloirs, va nous dresser le portrait inattendu de Christelle Cholet. Et puis, dans les indispensables, comme tous les mardis, on va vous aider à faire le tri dans les sorties cinéma de demain. Ce sera Mathieu Charrier qui sera ici. Et puis, il sera également question de musique. On va prendre la direction du Brésil avec Angèle Châtelier.
Et tout ça se passe sur Europe 1.